Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons aujourd'hui à l'étude numéro 118. Non, je me trompe, excusez-moi. C'est l'étude numéro 18. Toujours sur la série L'importance de la rédemption. Or, le titre pour aujourd'hui sera Quelle est la perspective éternelle du chrétien ? Ceci est une étude des plus importantes et c'est une étude qui n'est pas souvent, on peut même dire rarement, expliqué dans les églises. Mais, si vous piochez dans votre Bible, eh bien, vous constaterez que cette étude correspond tout à fait à la véracité de la Sainte Parole de Dieu. Nous avons vu au commencement de cette méditation que la vie chrétienne n'est pas une chose qui aurait simplement commencé dans cette ère particulière, l'ère chrétienne comme on l'appelle, mais qu'elle remonte jusque dans l'éternité passée. Avez-vous entendu cela ? Nous avons vu qu'elle a été conçue par Dieu dans ses conseils éternels. Le Nouveau Testament insiste beaucoup sur cela et que cette pensée et ce dessein éternel se poursuivent dans cette dispensation présente de manière très définie et particulière. Il nous faut voir maintenant que l'éternité future embrasse aussi cette dispensation. L'éternité future gouverne le présent. Elle dirige et explique le présent. Dieu agit non seulement en vue de l'avenir. L'aspect futur des activités divines n'est réellement que notre aspect des choses. Dieu, pour ainsi dire, agit en retournant en arrière. De son côté, Dieu agit toujours comme tourné en arrière pour accomplir sa pensée toute entière conçue dans l'éternité passée. Il nous conduit en avant, mais à cet autre point de vue, il nous ramène réellement en arrière. Donc, vous allez comprendre tout cela. Ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais nous allons donc ensemble piocher, fouiller et retenir les réalités de la Sainte Parole. C'est ainsi que nous arrivons à cette question de la perspective éternelle du chrétien. Il nous faut réaliser non pas qu'il soit difficile de le faire, qu'il y a dans le Nouveau Testament un très vaste élément de perspective. C'est-à-dire quoi ? Que le Nouveau Testament regarde toujours en avant. Dans le Nouveau Testament, tout est dominé par les âges à venir. La conception de Dieu est une conception éternelle et non une simple conception du temps. Elle est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand pour être réalisée pleinement dans une simple période de temps. Elle ne peut donc certainement pas être réalisée durant la vie d'un homme, car elle dépasse le temps, elle est d'éternité en éternité, et elle demande ce qui est plus vaste que le temps pour être réalisé. Cela explique naturellement beaucoup de choses. Cela explique la véritable nature de la vie chrétienne et du service chrétien. Un très grand facteur dans les voies de Dieu à l'égard de son peuple, à l'égard des chrétiens, c'est celui de l'expérience. Et cependant, il semble souvent que ce soit précisément lorsque nous commençons à profiter de nos expériences que vient la fin, que nous sommes appelés à quitter cette vie et que toute notre longue et pleine et profonde expérience n'a pas réellement pu être exprimée. Il y a en cela quelque chose qui semble être un problème. Si Dieu donne tant de valeur à l'expérience, et si lorsque nous l'avons acquise, nous ne pouvons pas l'utiliser, il semble y avoir là une contradiction. Il faut qu'il y ait une extension quelque part, de quelque manière, pour mettre en valeur toute cette profonde expérience que Dieu a produite avec tant de soin. Et c'est ainsi que la perspective éternelle explique les voies de Dieu à notre égard, dans le chemin d'une expérience profonde et allant toujours en s'approfondissant. Ensuite, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, oui, le travail est difficile. Il est vrai qu'il est dur, les progrès sont trop lents. Et bien que nous travaillions beaucoup, que notre vie soit très pleine, lorsque nous aurons vécu tous les jours qui nous auront été accordés, et que nous serons dépensés jusqu'à la dernière limite, qu'aurons-nous fait? À quoi tout cela reviendra-t-il pour finir? Nous devrons dire à peu de choses, oui, comparativement à peu de choses. Il y a encore tellement plus à faire. Et chaque génération successive d'ouvriers chrétiens ne peut que redire la même chose. Nous avançons sans jamais arriver, sans jamais atteindre aucune plénitude dans cette vie. Il faut quelque chose de plus pour rendre parfaites nos vies imparfaites et notre œuvre imparfaite. Il y a ensuite encore un autre facteur, et qui n'est pas un moindre facteur, c'est que Dieu semble se soucier davantage de l'ouvrier que de son œuvre. C'est naturellement cela qui a créé les perplexités de la vie et du service chrétien. Si Dieu donnait une telle importance à notre service chrétien, il ne devrait certainement pas permettre que nous en soyons mis de côté, spécialement à plusieurs reprises ou durant de longues périodes, et il ne devrait certainement pas permettre que nous mourions prématurément, comme nous le disons. Car si l'œuvre est tout, Dieu devrait nous garder en pleine vigueur durant toute notre vie et étendre nos jours à une pleine période, mais il ne le fait pas toujours. Il y a tellement de ces précieux enfants qui ne peuvent pas être en action, qui ne peuvent pas servir de la manière dont nous pensons habituellement au service, et ceux-là même qui sont en pleine activité sont conscients que le réel besoin dans l'œuvre de Dieu, c'est que l'ouvrier ait une connaissance plus profonde de Dieu lui-même. Ils apprennent que Dieu est préoccupé d'eux-mêmes beaucoup plus que de leur travail. Qu'est-ce que cela nous dit, chers amis? Toute cette discipline, cette éducation, cette difficulté, cette épreuve à travers lesquelles nous passons sous la main de Dieu, tout cela n'aurait-il d'autre but que le jour présent? Non, car Dieu nous prépare pour quelque chose de beaucoup plus. Il est intéressé à des hommes et des femmes, à un peuple, tout autant, sinon plus, qu'à ce qu'ils font pour lui. Cela ne sera naturellement jamais considéré de notre part comme une excuse à ne pas agir selon notre pleine capacité, mais tout cela nous dirige vers quelque chose de plus. Il n'y a rien de parfait ni de complet tant que subsiste la mort. Nous nous rappelons l'argument que développe l'apôtre dans la lettre aux Hébreux touchant le sacerdoce de l'Ancien Testament. Un sacrificateur dans l'ancienne dispensation ne pouvait amener rien à sa finalité parce que il mourait et devait remettre la succession à un autre. Et de la même manière, il n'atteignait lui-même jamais à la finalité et cela se continuait. L'argument de l'apôtre, c'est que à cause de la mort, rien ne pouvait arriver à la perfection. Mais lui, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, il a fait et fait parfaitement toutes choses, parce que il est toujours vivant. Selon Hébreux chapitre 7, versets 23 à 25, il nous faut donc une vie éternelle. Il nous faut la puissance d'une vie impérissable. Hébreux, chapitre 7, verset 16. Et cela pour atteindre la plénitude. Cela nous est clairement prouvé dans les Saintes Écritures. Oui, voyez-vous, l'image de l'immortalité que nous donne la Sainte Bible est infiniment merveilleuse, tellement que naturellement, dans notre ordre de choses actuelles, nous ne pouvons pas la comprendre. L'image de l'immortalité que nous donne la Sainte Bible est celle de productions nouvelles qui paraissent sans que soit nécessaire la mort de ce qui est vieux. Expliquons cela. Notre ordre présent, c'est que toute chose nouvelle sort d'une mort précédente. La semence, les fleurs, tout doit un jour ou l'autre mourir pour produire quelque chose de nouveau ou lui ouvrir la voie. Tel a été l'ordre des choses depuis que Adam est tombé. Et le cœur de cette dispensation présente, c'est la grande vérité de Jésus-Christ, le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, afin que soit possible une production sur une échelle plus vaste. Ça, c'est l'ordre de cette dispensation. Mais ce n'est pas l'ordre de l'éternité à venir. Là, l'image de l'immortalité telle qu'elle nous est donnée dans la Sainte Parole, c'est celle d'arbres qui produisent de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, de nouveaux fruits, tandis que le vieux ne meurt cependant jamais. Le fruit est amené à la perfection sans aucune mort. C'est plutôt merveilleux, n'est-ce pas? Et combien il y a d'exhortations dans la Sainte Parole qui sont à la fois un appel à notre cœur et un ordre d'être absolu pour le Seigneur. Tout le temps, les apôtres nous pressent, ils nous mettent sur notre cœur le poids de ce grand impératif. Avançons, oui, avançons, et avançons encore par l'exhortation, par l'avertissement. Ils nous répètent constamment « Avancez et avancez toujours. N'ayez dans votre vie aucune place qui ne soit consumée d'amour pour Dieu. » Et le point de cet appel, de cette insistance et de cet impératif, c'est l'éternité à venir. Tout cela nous est dit à la lumière de l'au-delà. Il faut, nous disait-il, que nous soyons tout entiers pour Dieu, et cela à cause de ce qui doit suivre, parce que ceci n'est pas la fin, c'est ce qui viendra ensuite. Ce qui viendra ensuite sera notre justification d'avoir été tout entiers pour Dieu. À l'égard de cela, nous sommes amenés maintenant à la chose suivante, à l'élément comparatif dans l'éternité. Il y a dans la vie chrétienne, je pense que nous sommes d'accord, un élément de perspective qui occupe une grande place dans le Nouveau Testament. Enlevons du Nouveau Testament cet élément de perspective et nous verrons ce qu'il en restera, et cela dans les évangiles comme dans les épîtres. Il ne nous restera pas grand-chose si nous l'en retirons. Il est là et il est là puissamment. Mais en plus de cela, il y a dans le Nouveau Testament l'élément de comparaison en relation avec l'éternité à venir. J'entends par là que les choses ne se passeront pas sur un niveau de protection en masse dans l'au-delà. Il y aura des différences en ce qui concerne les enfants de Dieu et de très grandes différences. Et ça vaut la peine que vous écoutez attentivement. C'était naturellement ce que montrait l'apôtre lorsqu'il écrivait aux Corinthiens. En leur parlant des fondations et de la superstructure, il leur dit « La fondation est posée, que tout homme prenne garde maintenant à la manière dont il bâtit dessus. Si quelqu'un construit là-dessus avec du bois, du foin, du chaume, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. » 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 13. Et cela signifie, chers amis, que si elle est de bois, de foin ou de chaume, elle partira toute en fumée. Et l'apôtre ajoute ce mot si terriblement fort au verset 15. Si l'ouvrage bâti par quelqu'un est consumé, il le perdra. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Avez-vous bien écouté? C'est dire que l'on pourra tout juste s'en tirer comme l'on dit, échappant d'un cheveu. Mais tout le reste aura disparu. Et il est évident que ce n'est pas ce que Dieu avait voulu. Nous avons en face de cela un passage comme celui-ci, et ainsi vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel. Et cela se trouve dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 11. Nous voyons que d'un côté, il est possible d'y entrer tout juste avec notre vie seule, mais rien d'autre. Et de l'autre côté, d'avoir une entrée abondamment accordée dans le royaume éternel. Nous le voyons, il y a des différences, il y a des traits de comparaison en ce qui touche à l'avenir. Qu'en est-il de ces messages adressés aux sept églises en Asie que nous avons au commencement du livre de l'Apocalypse? Je crois que les chrétiens dans cette église ou dans ces églises sont de vrais croyants, je le crois, et non seulement de simples professants. Si nous admettons cela, nous nous trouvons donc en face de ce fait que entre chrétiens et chrétiens, il y a une différence. Et nous avons là quelques promesses très distinctes des faits. Et certains chrétiens de ces églises verront quelque chose de surprenant. Je répète ces passages. Si nous admettons tout cela, eh bien, nous nous trouvons en face de ce fait que entre chrétiens et chrétiens, il y a une différence. Et nous avons là quelques promesses très distinctes, faites, qui sont faites, à certains chrétiens de ces églises-là. Écoutons la suite. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai. La logique implique sûrement ceci, sinon tu n'auras pas, tu n'as rien. Si tu n'es pas un vainqueur, tu ne recevras pas ce que offre le Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Il y a des différences. Je ne crois pas qu'il s'agisse de la perte du salut, bien sûr que non. Mais il y a quelque chose de plus que le simple fait d'être sauvé, d'échapper, par exemple, comme à travers du feu. Quelle est la nature de la différence ou des différences? Quelques-uns diront, naturellement, c'est la récompense. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit de la nature de la récompense? La réponse, tout à fait clairement, est celle-ci. La récompense, elle est liée à la vocation. Elle est une question de vocation. Elle est toujours liée à la vocation. Ses serviteurs le serviront, ils verront sa face, selon die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. C'est le service, mais sans tous les éléments pénibles qui sont maintenant si souvent associés au service. Le service que nous lui rendrons sans limite, sans contrainte, sans opposition, sans souffrance. Pour pouvoir servir Jésus-Christ, il n'y a sûrement pas de plus grande joie que de pouvoir simplement, sans toute la tension et les limitations et les difficultés de l'œuvre telle qu'elle est maintenant, pouvoir servir le Seigneur en plénitude. Or, c'est là que le Nouveau Testament met le doigt. C'est sur l'appel, sur la vocation. Et il nous montre ensuite que c'est une question de position en relation avec le Seigneur, de position différente pour le service. Prenons une simple illustration de tout cela dans l'un des messages adressés aux églises. Il est dit dans die Offenbarung, c'est-à-dire dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, « Celui qui vaincra, c'est pas moi qui le dis, c'est la Sainte Bible, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Celui qui vaincra. Nous trouvons là deux idées. L'une est celle d'une relation très proche avec le Seigneur, une position très intime avec lui. L'autre est celle du service royal, le service du trône. Quelle est notre conception? Que signifie pour nous être assis avec lui sur son trône? Ne nous imaginons pas des trônes d'or ou d'ivoire, et ainsi de suite. Cela signifie simplement que c'est notre union avec le Seigneur dans l'administration de son royaume éternel. C'est le service. Mais il nous est dit que ce sera un don spécial confié à certaines personnes. Ce sera leur récompense. Si vous voulez, ce sera vraiment leur récompense. Donc le point, c'est que c'est une question de vocation et une question de relation personnelle avec le Seigneur. La dernière image que nous ayons dans le Nouveau Testament, bien qu'elle soit si pleine de symbolisme, c'est une incorporation de ses principes spirituels. C'est l'image de la cité. Gardons ici encore nos esprits libres et ne pensons pas à une cité littérale. Ce n'est qu'une illustration, une figure, un symbole. Cette cité est sans aucun doute l'Église. Avons-nous besoin de le prouver? La Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère, selon Galates chapitre 4, verset 26. Vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Hébreux, chapitre 12, verset 22. Vous vous êtes approchés. Ce n'est pas plus tard. Ce n'est pas plus tard que nous nous approcherons. Ce n'est pas dans la suite. Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, de l'Église des premiers-nés. Ainsi, cette cité qui nous est dite être la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, d'après, c'est-à-dire d'auprès de Dieu. Répétons cela. Ce n'est pas plus tard que nous nous approcherons. Ce n'est pas dans la suite. Vous et nous tous, vous êtes approchés, vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, de l'Église, des premiers-nés. Ainsi donc, cette cité qui nous est dite être la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, selon Apocalypse chapitre 21, verset 2, c'est l'Église. Or, comme toute ville importante, elle est placée dans une position spéciale et particulière. Et l'idée pour une telle cité, c'est qu'elle est un centre administratif. Il nous est dit que les nations marcheront à sa lumière, selon le verset 20. Nous sommes donc dans Apocalypse chapitre 21, hein, donc selon le verset 24. Nous le voyons donc, il y a au centre une place pour le gouvernement. Nous avons ici la position toute proche avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur pour notre vocation éternelle dans l'administration de son royaume. Cela suffira certainement à prouver ce fait d'un élément comparatif dans l'éternité à venir. Et c'est cela le point de l'exhortation et de l'impératif. C'est la force de la persuasion. Tendons à ce qui est parfait, nous est-il dit dans Hébreux, chapitre 6, verset 1. Avançons vers la perfection, dit la version Darby. Ne regardons pas en arrière, mais courons en avant. C'est la force de tous les avertissements. Non pas que l'on puisse perdre son salut, je le répète, mais il y a des positions et il y a une vocation à laquelle nous sommes appelés dans l'éternité et qu'il est possible de ne pas pouvoir atteindre. Je pense que c'est ce que saint Paul a vu dans ce qu'il a appelé la vocation céleste selon Philippiens chapitre 3 verset 14. Il a vu quelque chose de cette vie d'autorité morale dans les siècles à venir. Or pour Dieu, rien n'est purement officiel. Dieu n'établit jamais de simples fonctionnaires dans son royaume. Il n'y a point de politiciens, d'employés officiels dans son royaume, non plus que des ecclésiastiques ou des fonctionnaires ecclésiastiques. Pour Dieu, je le répète, il n'y a rien qui soit simplement officiel. Non, non, non. Dieu ne désigne pas de fonctionnaires dans son Église. Le principe sur lequel Dieu se base est toujours la mesure spirituelle. Maintenant même, dans l'Église, lorsqu'elle est spirituelle, lorsqu'elle est selon sa pensée, Dieu désigne pour porter la responsabilité ceux qui sont des hommes de mesure spirituelle et non pas ceux qui seraient choisis, élus et nommés par un vote populaire. C'est le principe du Nouveau Testament et dans le royaume, il en sera de même. Personne n'y occupera de position simplement parce qu'il aura été nommé officiellement. Pas du tout. la position de chacun lui sera donnée selon sa mesure spirituelle. Nous sommes donc exhortés à plusieurs reprises. Avançons vers la pleine croissance. Ne reculez pas. La perfection est une traduction malheureuse. Il s'agit toujours de la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens chapitre 4 verset 13. Il s'agit simplement de la place que Christ a en nous, en toi, de la mesure où il est vu en nous. Ce sera toujours de cela que dépendra notre vocation, de la place que Christ a en chacun de nous. Je répète, ce sera toujours de cela que dépendra notre vocation, de la place que Christ a en chacun de nous. La pensée tout entière de Dieu, comme nous l'avons vu au commencement de ces méditations, c'est que Christ remplisse toutes choses. C'est cela qui explique notre discipline. C'est un mot que certains n'aiment pas beaucoup, car notre discipline, c'est notre éducation pour la vie à venir. Et la nature de notre discipline maintenant est précisément d'augmenter la mesure de Christ et de diminuer la mesure du moi, de mon ego, de nous-mêmes, sous tous ses aspects, et de mettre de côté ce qui est de l'homme et qui occupe malheureusement la place de Christ, et de mettre Christ à sa place. Le seul objet du Saint-Esprit dans cette dispensation, c'est que Christ soit tout. Son but est de donner à Christ toute la place possible. Cela nous ramène naturellement à la question, sommes-nous bien réellement tout entiers à lui? La mesure de notre don absolu sera la mesure de notre utilité dans les âges à venir. Cela sera gouverné par notre mesure spirituelle et par aucun autre principe. Quelques personnes trouvent une certaine difficulté purement mentale, c'est-à-dire à réconcilier la récompense et la grâce. Ah, ils ont du mal avec ça. Quelques-uns nous diront, « Oh, mais tout est par grâce, ne nous en faisons pas. Et vous en faites une œuvre, hein ? Après tout est par grâce. Comment peut-on réconcilier la récompense et la grâce ? Il nous faut chercher de quelque manière la place des récompenses, n'est-ce pas ? Il faut chercher. Mais ce n'est pas si difficile que cela. C'est par la grâce de Dieu que nous avons une possibilité d'être tout entier à lui. C'est uniquement par grâce que je peux être un chrétien et que je peux avancer avec le Seigneur et que je peux servir le Seigneur, même un tout petit peu. Tout est grâce. Et si la souffrance doit nous conduire à la gloire, et que la mesure de la gloire soit mesurée à la souffrance, il faut donc toute la grâce de Dieu pour cela. L'on ne peut jamais sortir de la grâce. S'il doit y avoir un jour une récompense, si nous aimons maintenant envisager quelque chose comme une récompense qui nous serait offerte littéralement? Je vous le dis, mon cher ami, lorsque nous arriverons au point où nous comprendrons et connaîtrons tout le support et toute l'endurance et la patience du Seigneur, alors nous tomberons sur notre face en disant « Seigneur, je ne peux pas accepter de récompense, car tout est par ta grâce. » Mais souvenons-nous qu'il nous est aussi parlé de plusieurs manières de la grâce dans le Nouveau Testament. Il y a la grâce qui nous donne l'accès à la repentance. Cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, selon Romains chapitre 5, verset 2, c'est une faveur de Dieu sans aucun mérite que nous soyons sauvés, que nous appartenions au Seigneur. Oui, c'est par grâce. Mais écoutons la suite. Mais ensuite, sa grâce nous est aussi montrée comme une force qui va au-delà du salut initial. C'est ce que le Seigneur a voulu faire comprendre à saint Paul lorsqu'il lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. La grâce, c'est notre acceptation sans aucun mérite. Mais la grâce est aussi notre force pour travailler, pour servir et parfois de souffrir. De quel côté que nous regardions, tout est grâce. Voyez-vous? Il faut donc maintenant nous concentrer sur ce fait qu'il y a dans le Nouveau Testament beaucoup de raisons à ce que nous soyons tout entiers pour Dieu. Il n'est pas suffisant de croire et d'accepter Christ comme si cela était le commencement et la fin de tout, absolument de tout. Comme si désormais, eh bien, nous possédions le summum, hein? Sûrement, tous ces avertissements, toutes ces exhortations, ces supplications prouvent cela. Le cœur de tout cela, c'est « ne laissons rien au hasard ». Ne disons pas « oh, ceci n'a pas une grande importance, cela ne me fera pas de mal, il n'y a rien de mauvais en cela, j'ai le salut, alléluia ». Et la grâce de Dieu couvrira toutes ses imperfections. Je puis bien faire ceci ou cela. Cela ne fera aucune différence. Dieu est un Dieu d'amour. Que je sois homosexuel ou pas, Dieu est amour. Eh bien, il faudrait peut-être revoir tout cela dans la Sainte Bible. Il ne faut pas prendre seulement ce qui nous convient. Le Nouveau Testament nous dit, en fait, « Ne courons aucun risque. » C'est pas moi qui le dis. Si cela ne touche pas à la question de notre salut, il y a cependant quelque chose en vue. La Sainte Parole insiste avec force. « Prends garde. » Soit tout entier pour le Seigneur, pour le Dieu. Dieu ne peut être satisfait par moins que cela. Je répète, prends garde, sois donc tout entier pour le Seigneur. Dieu ne peut être satisfait par moins que cela. Suis donc le Seigneur jusqu'au bout, car c'est à cela que tu es appelé. Le Seigneur n'a jamais dit, tu n'auras besoin que d'aller jusqu'ici et je t'exaucerai de tout le reste. Non, non, non. Dieu a toujours en vue la plénitude et il fait toujours appel à notre volonté de lui être loyal jusqu'au bout. Mais nous n'aurons à la fin aucune raison de nous glorifier de notre endurance, de nos succès, de notre don absolu. Alors même que nous nous dépenserions jusqu'à la dernière goutte, ce sera nous qui serons à la fin et par-dessus tout les adorateurs. Nous serons ceux qui se courberont le plus devant lui. Ceux qui sont le plus entièrement consacrés sont toujours ceux qui sont le plus conscients de leur dette envers le Seigneur. Croyez-moi, je sais bien que je suis sauvé par grâce. On n'est quand même pas à un grand âge devenu débile à ce point que nous ne le comprenons pas. Mais je dis pour ce qui me concerne, et cela implique que moi-même, hein, donc j'en prends toute la responsabilité. Dans ma vie, eh bien, je peux vous dire tout sincèrement, j'aurais dû, il y a déjà 60 ans, servir le Seigneur avec fermeté, avec conviction, avec zèle. Mais je dois vous avouer que j'étais un chrétien longtemps uniquement formel, théorique en quelque sorte, qui se disait « J'ai le salut, merci beaucoup, c'est tout ce qu'il me fallait ». J'ai mal compris, parce que j'ai pas voulu comprendre le reste de la sainte parole de Dieu. Et il y en a aujourd'hui que parce que certains gouvernements autorisent, même plus que cela, on dirait même que c'est un dictat, que vous avez le droit de faire n'importe quoi, de vous marier avec n'importe qui, eh bien, puisque les gouvernements le stipulent, je dois pouvoir faire tout ce que les gouvernements autorisent. Mais les gouvernements sont-ils vraiment de Dieu? C'est la question que nous devrions nous poser. Donc, encore une fois, ceux qui sont le plus entièrement consacrés sont toujours ceux qui sont le plus conscients de leur dette envers le Seigneur. Et j'ai une telle grande dette envers lui que ce n'est pas parce que je pense que je suis sauvé par les œuvres, pas du tout. Mais c'est tout simplement parce que j'ai une dette envers le Seigneur que je désire faire tout ce que je peux encore, en plus, pour pouvoir obéir, le servir avec toutes mes forces jusqu'au bout. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et maintenant que nous nous approchons de la fin de notre méditation, nous arrivons à la grande crise qui détermine absolument tout. Elle est toujours là, dans les Saintes Écritures, toujours gardée en vue, une grande crise, la venue du Seigneur. Oui, c'est là, c'est alors que tout sera déterminé. Alors même que nous ne serions plus ici-bas quand il reviendra, la Sainte Parole montre tout à fait clairement que cela ne sera aucune différence, cela ne fera aucune différence. Nous serons tous là, là lorsqu'il reviendra, et ceux qui seront encore vivants ne nous dévanceront absolument pas. Nous serons là, tous, ensemble. Et nous serons ainsi tous sur un même plan. Et c'est alors que sera déterminé ce que sera l'avenir, ce que sera exactement notre place, quelle sera notre fonction. C'est pas moi qui invente cela. C'est un grand facteur dans l'aspect futur des choses. Les Saintes Écritures regardent toujours en vue la perspective du retour du Seigneur. Lorsque nous sommes sauvés, nous recevons une nouvelle espérance. Mais à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne, nous trouvons que cette espérance devient quelque chose de très défini et de concret. Elle est appelée dans le Nouveau Testament l'espérance. Et l'espérance est liée à la venue du Seigneur. C'est ainsi que tous les appels et tous les avertissements, tous les avertissements et toutes les exhortations se concentrent sur ce fait-là. Le Seigneur revient, ça c'est une certitude, et à son retour, tout va être décidé, tout va être établi. C'est à ce moment que notre éternité future va être fixée. Nous nous souvenons de tous ces appels qui, à la lumière de son retour, nous exhortent à veiller, à être pleinement occupés de lui, à tendre toujours en avant, jusqu'à ce qu'il vienne, et de ces sérieux avertissements qui nous montrent que sans cela, quelque chose de grave pourrait nous arriver, quelque chose de tragique. Il faut que nous nous tenions éveillés, ne pas nous endormir et que nos lampes soient allumées. Nous ne faisons pas de ceci un système de doctrine, mais pas du tout, pour le cristalliser en une forme d'enseignement. Mais ce sont des faits, voyez-vous, ce sont des faits, n'oublions jamais cela, des faits de purs et simples faits. Au retour du Seigneur, de grandes décisions vont être prises. Et si nous ne tendons pas résolument en avant, il nous arrivera quelque chose de déplaisant. La Sainte Parole nous le montre très clairement et de plusieurs manières. Il y aura pour nous quelque chose de grave. Je l'exprime ainsi. Je veux dire qu'il y aura quelque chose de différent de ce que le Seigneur aurait voulu et de ce qui aurait pu être différent pour nous. Nous faisons ainsi entrer l'éternité future directement dans le présent et nous disons qu'elle est un motif immense. Elle donne une raison puissante à la vie chrétienne. Oh, la vie future, notre arrivée dans les cieux, ou quelle que soit la manière dont nous en parlons, la vie future, ce n'est pas simplement quelque chose de très loin. Mon cher ami, ma chère sœur, ce jour étreint le présent. Ce jour est ici, dès maintenant, avec toutes ses implications. Il y a peu d'espoir pour nous d'aller au ciel si le ciel n'est pas déjà venu à nous. Notre place et notre vocation future, quoique pas notre salut, tout cela dépend ou dépendra très largement en ce jour de la place que Jésus-Christ aura eue en nous dans cette vie ici-bas. Est-ce qu'on se comprend bien ? Notre place et notre vocation future, quoique pas notre salut, je ne mets pas en doute votre salut, mais tout cela dépendra très largement en ce jour de la place que Christ aura eue en nous dans cette vie ici-bas. Donc tout cela nous explique beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Cela explique par exemple pourquoi le Seigneur permet très souvent, en un temps très court, beaucoup de souffrances, beaucoup d'afflictions, beaucoup d'épreuves qui produisent une mesure merveilleuse de Christ en nous. L'on peut voir la croissance en grâce, l'on discerne la patience, l'endurance, la bonté et l'amour de Christ qui paraît dans cet enfant de Dieu qui est très éprouvé. C'est la préparation pour la gloire. Oui, la préparation pour le service. Cela explique beaucoup de choses. Oui, nous pouvons examiner tout cela, le considérer à différents points de vue. Tout ne reviendra toujours que à cette seule chose. Le Nouveau Testament garde l'avenir en vue comme étant la grande chose qui gouverne tout le présent. Le Nouveau Testament nous dit qu'il y aura une différence selon la mesure où nous aurons marché avec le Seigneur et la place que le Seigneur aura eue dans nos vies maintenant. Et ce sera définitif. Le Nouveau Testament dit que le Seigneur vient. Le Seigneur viendra à son heure et alors tout sera décidé. Or, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées au retour de Christ à un point de vue simplement prophétique en ce qui concerne les faits et les événements de ce monde, et ainsi de suite. Et il y a si peu de chrétiens qui soient conscients que selon le Nouveau Testament, la venue du Seigneur doit toujours influencer notre état spirituel. Quiconque a cette espérance, non pas celui qui a cette interprétation prophétique du retour, mais quiconque a cette espérance se purifie lui-même. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Il se prépare, elle se prépare, il veille à ce que l'état de son cœur soit bien en ordre, de même que sa position. Cela est très important et cela aura une importance immense. Il nous faut donc ouvrir toute grande la porte de nos vies chrétiennes à cette vie beaucoup plus grande qui est devant nous. Oui, la plus longue de nos vies ici-bas est très brève. Elle est très petite. Elle n'est que le commencement, mais en ce jour, toutes ces significations ressortiront en plénitude. Voyez-vous, chers amis, est-ce que nous allons à comprendre tout cela et à entendre l'appel formel et précis? Voyez-vous, la vie chrétienne, comme nous l'avons dit, cette vie chrétienne est une chose formidable, c'est une chose immense. Nous sommes appelés d'un appel éternel pour une vocation éternelle. Ici-bas, nous sommes simplement amenés en relation avec le Seigneur pour être ensuite formés par le Seigneur. Il nous est permis de servir le Seigneur, mais dans notre service même, nous sommes à l'école. Nous apprenons plutôt que toute autre chose. Ne pensons-nous pas qu'ils doivent en être ainsi? Non pas simplement que nous fassions mille et une choses, mais que nous apprenions profondément et que nous apprenions à l'école de l'expérience. Et tout cela est lié à l'appel d'en haut et à la grande vocation dans l'au-delà. Que le Seigneur pousse nos cœurs à être tout entiers pour lui, à ne courir aucun risque, à ne rien laisser au hasard, mais comme son serviteur Saint Paul, que nous tendions vers le prix le plus haut, le but le plus plein, c'est-à-dire celui que notre Seigneur a toujours voulu pour nous. Ce que je veux dire, pour terminer, cela, j'en prends toute la responsabilité, ça engage que moi. Et je ne vous dis pas ni que j'ai raison, ni que vous devez me croire. Je pense qu'avant de quitter ce monde, j'aurai dépassé les 3000 études sur ces CD. Donc, cela engage bien entendu, comme je l'ai dit, que moi. Mais je prie pour que le Seigneur m'aide à être digne de le servir plus tard, dans le millénium, car le millénium existera bel et bien, bientôt, n'est-ce pas? Après la venue du Seigneur. Et là, nous pouvons le servir, et j'aimerais en être digne. Et je fais tout ce qui est possible, non pas dans la pensée que c'est les œuvres qui vont me sauver, bien sûr que non, mais dans mon cas, et je répète, ça engage que moi, j'ai une grande dette envers le Seigneur, et c'est pour cela que je crois que ce n'est pas faux de vouloir tout faire si peu que nous pouvons faire, parce que nous pouvons faire pas beaucoup, nous sommes limités, mais le peu que nous faisons, faisons-le pour le servir jusqu'au bout. Chers amis, à demain, la suite de cette série. Au revoir, et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer par une petite prière, une petite pensée dans la prière. Élevez vos cœurs. Nous les tenons levés vers le Seigneur. hors des ténèbres vers la lumière, hors du désespoir vers la joie, hors de la mort vers la vie, hors de la servitude vers la liberté, après la nuit l'aurore, après l'hiver le printemps, après la colline du crâne, le jardin d'Arimathée, après le vendredi, le dimanche. De même que nous avons commémoré hier le cruel supplice du Sauveur, sa mort solitaire, le drame de l'amour vaincu par la haine et le juste sauvagement piétiné par l'ennemi. De même, préparons-nous à fêter avec sérieux et allégresse le merveilleux triomphe du ressuscité doit être fêté, du glorifié victorieux, et tout cela, il, Jésus-Christ, l'a fait pour nous racheter, pour te racheter et pour nous sauver. Amen. Et chers amis, Dieu voulant, à demain matin pour la suite de cette série. Que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime.